Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On va passer les deux prochaines heures ensemble et la première heure, j'aimerais ça qu'on discute ensemble de ce qui se passe dans certaines régions qui ont été légèrement déconfinées il y a quelque temps, c'est-à-dire qu'on a passé de couleur rouge à couleur orange. Et là, l'inquiétude qu'on a ce matin, c'est que certaines de ces régions, on pense entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on pense également à l'Outaouais. Il y a une hausse de cas assez importante, en particulier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et ça fait craindre le pire aux gens, aux experts de la santé publique qui disent, ben là, on est comme en orange foncé. Est-ce qu'il y aurait recours à nouveau au rouge parce que les cas sont trop importants pour être contrôlés et parce que les hôpitaux déborderaient à nouveau? C'est un peu ça la situation. Et ça ressemble à quoi ça? Ben déjà, certains disent c'est la fameuse troisième vague. On vous l'avait dit il y a quelque temps, cette fameuse troisième vague qu'on attendait. Et c'est vrai que par rapport à ça, il y a des chiffres qui inquiètent. On va aller voir un peu ce qu'en pensent des médecins à la fois à Québec et à Montréal parce que on pourrait toujours dire si c'est des cas de gens de Québec ou de Montréal ou des régions rouges qui ont rendu visite, entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais même les gens de la santé publique là-bas le disent, non, on n'a pas de cas de variants. Donc, on ne peut pas dire, ah, oh, c'est des Montréalais qui sont venus en visite. Sinon, on aurait des variants puisque les nouvelles éclosions de Montréal sont des variants. Donc, vous comprenez que là, il y a une situation qui se passe qui est peut-être plus due au comportement. Et c'est la question que je vais vous poser au cours de la prochaine heure. Avez-vous l'impression que les gens autour de vous ont baissé la garde, qu'on a laissé un peu tomber notre état d'urgence, nos mesures d'urgence, tout ce qu'on fait depuis, j'allais dire qu'on faisait, mais qu'on continue quand même de faire parce qu'il faut le faire, toutes ces mesures sanitaires qu'on respecte depuis 12 mois, avez-vous l'impression qu'on les laisse légèrement aller? Plus ou moins légèrement aller. On a vu, il y a des grands rassemblements qui ont eu lieu à Laval. Ça a coûté cher d'ailleurs aux gens qui ont participé, là, plus de 200 000 $ d'amende, parce qu'on voulait marquer le coup pour dire aux gens, regardez, les rassemblements ne sont pas permis encore. Donc oui, les beaux jours nous ramènent certains assouplissements, le gouvernement le dit, mais il ne faut certainement pas baisser la garde complètement. Est-ce que c'est ce qui se passe? Vous me le direz au 514-790-9850 et un peu partout, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Je vous présente le docteur Mathieu Simon. Il est pneumologue, chef de soins intensifs à l'Institut universitaire et de cardiologie de pneumologie de Québec. Bonjour, docteur Simon.
Bonjour, Mme Maréchal.
Merci d'être avec nous. Docteur François Marquis est là également, chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, François.
Bonjour.
Je sais que vous vous connaissez bien tous les deux.
Oui.
François, vous me permettrez de commencer avec Dr Simon parce qu'il est de Québec. Donc, comment ça se passe chez vous, Dr Simon?
Ça se passe correctement. Écoutez, depuis qu'on est revenu à en bas de 800 cas quotidiens dans la province, nos unités de soins intensifs hébergent pour la totalité de la ville de Québec entre 8 et 10 cas qui se renouvellent sur un cycle d'à peu près 10 à 14 jours. Des patients plus jeunes que lors de la première et du début de la deuxième vague, des gens qui n'ont pas été immunisés. Et il y a une très forte embellie sur les étages réguliers où allaient se faire traiter les personnes plus âgées, plus vulnérables qui arrivaient des ressources de type CHSLD, RPA. Donc, pour l'instant, ça va. Ce qui me préoccupe, c'est que malgré toutes les mesures dont vous avez fait mention tantôt, on reste encore collé à 700-800 cas par jour au Québec. Puis ça, c'est un peu comme un tison en dessous du feu. C'est-à-dire que les mesures de déconfinement, avec un feu qui brûle comme ça à bas bruit en dessous, c'est sûr que dès qu'on va augmenter...
C'est le feu ou le requin, Dr Simon?
Ben, écoutez, j'aime mieux le feu que le requin. Un requin, c'est sournois, on le voit pas venir. Le feu, on sait qu'il est. Il y a une odeur de fumée, donc ouais. Il n'y a pas d'odeur de requin. Mais c'est un peu le même principe que le requin, effectivement. On n'a pas vaincu le COVID. Et toute mesure d'ouverture sur les mesures sanitaires doit être perçue avec beaucoup de responsabilité de la part de la société en attendant que tout le monde soit vacciné.
Fait que donc, ce que vous nous dites, c'est que vous, dans la région de Québec, vous êtes passé aussi à l'orange. Vous ne semblez pas remarquer une augmentation aussi importante des cas comme c'est le cas en Outaouais ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ça fait seulement 2 semaines qu'on est sorti de la zone rouge. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de recul. Je vous répondrai de façon plus confortable au milieu de la semaine prochaine, disons.
Mm-hmm. Mais on sent votre préoccupation. Docteur Marquis, comment ça se passe à Montréal?
Bien, je dirais que c'est un peu un copier-coller avec une saveur de variant par-dessus. Nous autres, c'est vraiment, on est dans cette espèce de plateau-là. On avait vu une diminution, tout le monde s'en réjouissait. On a été capable de ramener un certain nombre là, de patients COVID, puis de réouvrir les unités de soins intensifs. Le défi, peut-être chez nous aussi, il y a le fait que les équipes sont très, très, très réduites au niveau là, nursing puis des inhalos, mais le fait est que pour les patients, c'est ce qu'on voit là, des patients un peu plus jeunes, extrêmement malades, qui font un 7-10 jours aux soins intensifs, et ce qui est important de dire, qui sont renouvelés. C'est pas qu'on a un groupe de patients qui en finissent plus de guérir, c'est vraiment des gens qui remplacent. Là. C'est simplement qu'on respire avec ce bruit de fond-là, ce tison-là qui nous amène toujours des patients et qui nous rappelle, nous, au quotidien, que le virus est encore très actif et très présent partout au Québec. Il faut juste se déconfiner pour s'en rendre compte.
Ouais, vous parlez d'un bruit de fond, Dr Marquis.
Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours ces tisons-là qui guettent et que c'était assez clair dans ma tête que si Montréal se déconfinait à la même hauteur que d'autres régions au Québec, on verrait nos chiffres augmenter encore plus rapidement, peut-être encore que ce qu'on voit là au Saguenay ou en Outaouais.
Ouais, tous les deux. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une troisième vague qui nous guette? Il y a des experts qui disent bon, c'est pas trop important de parler de troisième vague. L'important, c'est d'être capable d'augmenter le rythme de la vaccination. N'empêche que la troisième vague est importante dans la mesure où ça nous montre bien ce qui nous pend au nez, en fait. Et la semaine dernière, il y avait d'ailleurs des chiffres qui ont été publiés de l'Institut national de santé publique du Québec qui nous disait, en avril, malgré quand même l'adhésion toujours forte là, quand même des Québécois, je pense qu'on peut dire ça comme ça, aux mesures sanitaires, ben, à Montréal, entre autres, dans le Grand Montréal, selon les modèles actuels, on s'attend à ce que le nombre de cas puisse monter jusqu'à 2000 cas par jour. Bon, ça, aujourd'hui, par rapport à... On est quand même autour de 700, comme le disait le docteur Simon. Ça me paraît un saut énorme, là, non?
Oui,
en quelques semaines
ça,
seulement.
Ça, c'est la beauté des virus ou la pas-beauté des virus, c'est leur capacité de faire une reproduction exponentielle. Donc, ça prend pas un gros dérapage pour que les chiffres, tout d'un coup, explosent. On l'a déjà vu. Plusieurs choses à regarder. Premièrement, les efforts de vaccination, c'est certain qu'il faut mettre un maximum d'énergie là-dedans. Maintenant, on se rappelle, regardez ce qui se passe en Europe. Est-ce qu'on a besoin de se rappeler que l'Italie et l'Allemagne avaient été aussi, lors de la première vague, un peu annonciateurs? La troisième vague est une réalité. On va l'avoir. Le véritable défi, c'est de faire en sorte que cette troisième vague-là ne demande pas une augmentation des ressources et ne paralyse pas le système de santé à la hauteur de la première et de la deuxième. Mais ça ne sert à rien de se poser la question, est-ce qu'il va y avoir une troisième vague? La réponse, c'est oui, comme à chaque année, il y a une vague d'influenza après Noël. Et on va vivre avec des vagues successives de COVID-19 jusqu'à temps que la vaccination, l'immunité collective, le système de santé se soient habitués, tout ça mis ensemble et qu'on ait trouvé un nouvel équilibre. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut juste arrêter de compter les vagues parce que c'est un peu comme les vagues d'influenza. Là, on pourrait bien dire qu'on est rendu à la 136e vague d'influenza. À un moment donné, revenons-en. L'idée, c'est vraiment de vacciner tout le monde et de s'assurer que l'impact sur le système de santé ne devienne pas plus que nos vagues d'influenza ou nos éclosions de gastro post-Noël. Là.
Docteur Mathieu Simon, vous pensez que c'est quand même préoccupant dans la mesure où, effectivement, on porte quand même le masque des consorts. Il y a le couvre-feu, même s'il a été repoussé à 21h30, il est quand même là. Donc, normalement, on a quand même des mesures. Il y a toujours la distanciation de 2 mètres. Il y a toujours le fait que, normalement, le télétravail est obligatoire pour toute personne qui a un poste de bureau. Donc, normalement, là, il y a encore toutes ces mesures quand même plutôt contraignantes, même si on a l'impression avec le soleil puis la température qui augmente, là, qui nous réchauffe le cœur et le corps, on a l'impression quand même que le monde relâche un peu autour. Comment vous évaluez ce qui se passe en ce moment?
Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce que François vient de dire. Vous savez, le concept de vague est un concept un peu artificiel. C'est-à-dire que les vagues, la première, c'est parce qu'on ne connaissait pas le virus puis il nous a surpris. La deuxième, c'est parce qu'on a commencé à partir de l'Halloween à se dire qu'on avait vaincu puis on a permis l'Halloween alors qu'on l'avait interdit l'année précédente parce qu'il allait faire mauvais. On a donné un message à la population, on a vaincu le virus et reprenez vos activités habituelles. Et là, ce qu'on pourrait appeler la troisième vague, mais qui, en fin de compte, va juste être une remontée de la prévalence, elle va être entièrement dépendante du transfert de la responsabilité sous forme de loi ou de règlement qui peut amener une amende à la responsabilité individuelle de chacun. On a une maladie contagieuse qui se transmet par des contacts relativement standards, rien de très, très, de très proche. Et on a une seule approche thérapeutique face à ça, c'est le vaccin. Donc, dans l'intervalle où on sera tous vaccinés, je vois mal comment est-ce qu'on peut lever beaucoup plus les mesures. Vous voyez, Saguenay, l'Outaouais montrent qu'après presque un mois et demi de déconfinement, de passage en zone orange plus jaune, ils se retrouvent avec une remontée des cas. C'est pas parce qu'on a des nouveaux virus, c'est pas parce qu'on a des nouveaux variants, c'est parce qu'on a plus d'interactions sociales. Ceci étant dit, le maintien des mesures au Québec et l'adhésion aux mesures nous a évité d'avoir, comme en Ontario puis dans plusieurs juridictions européennes, une remontée de la prévalence avec le nouveau variant qui est plus contagieux. Donc, on connaît la recette. Si on veut ne pas avoir ce qu'on appellera une troisième vague avec un débordement des hôpitaux, etc., la seule façon, c'est un, de continuer à obéir aux mesures socio-sanitaires qui deviennent une responsabilité personnelle plus qu'une responsabilité étative, et deux, de se faire vacciner. Parce que la grande inquiétude que j'ai, puis François, je suis sûr que tu la partages, là, on s'en va, on va avoir vacciné les populations les plus vulnérables. Mm-hmm. Là, il y a un débat à savoir quelle est la prochaine population vulnérable à vacciner après les 60 ans. En fin de compte, moi, ce qui m'inquiète...
Quelle clientèle vous feriez, si
on est capable de vacciner tous les Québécois d'ici la Saint-Jean, comme ce qui est promis, je pense qu'il n'y a pas tellement de priorisation à faire. Moi, la priorité que je vois, c'est que la personne de 25 ans qui se perçoit comme un peu pas touchée par le COVID décide de ne pas aller se vacciner parce que c'est presque rendu l'été, que de toute façon, lui, il fera pas un COVID sévère. C'est vrai qu'il fera probablement pas statistiquement un COVID sévère, mais c'est avec ces gens-là, non vaccinés pendant l'été, qu'on va avoir une autre épisode de COVID sévère à l'automne. Comme je le disais tantôt, les tisons sont encore bien allumés. Il faut faire comprendre à la population que c'est une responsabilité collective dans les mesures d'évitement actuellement, puis dans les mesures de vaccination qui sont à nos portes.
Oui, docteur François Marquis, là-dessus?
Absolument, absolument d'accord. La vaccination pour tout le monde, parce que sinon, on va créer des espèces de poches où les virus vont se cacher puis vont simplement attendre qu'on se retrouve tous à l'intérieur à l'automne pour nous frapper. C'est des comportements viraux qu'on connaît depuis des années. C'est juste qu'habituellement, ça n'a pas l'impact que ça a sur notre société, mais c'est vraiment hyper important que tout le monde se fasse vacciner, y compris ceux qui vont avoir fait la COVID, parce qu'on sait que les vaccins donnent une meilleure protection. Le but, c'est vraiment, comme quand il y a un feu de forêt, de repasser en arrière, de mettre de l'eau partout pour être certain qu'il n'y aura pas une flambée qui va recommencer dès qu'on va avoir le dos tourné. Et ça, c'est bien dit, c'est une responsabilité individuelle, c'est pas une responsabilité de l'État. C'est important que chacun continue de se responsabiliser et à prendre son vaccin.
Ouais. Êtes-vous vacciné, vous deux, docteur Marquis?
Oui. Oui, mais moi, dans les premiers, on était sur la ligne de front, puis ils ont vacciné toute la gang.
Docteur Simon aussi?
Ma première dose, le 4 janvier.
Okay. Oui, moi aussi, je suis encore à la première dose.
Exact.
Avez-vous eu la deuxième?
Non.
Pas encore? Ça fait longtemps, là. Janvier, février, mars, on est...
Non, ça m'inquiète pas tant que ça.
Ça vous inquiète pas? Bon.
Pas tant que ça.
Puis les travailleurs de la santé, on dit qu'il y en a quand même pas mal là, qui refusent, sont pas convaincus, attendent que ça soit en dernier.
On a deux statistiques qui sont sorties la semaine dernière qui sont très inquiétantes. Hein. D'abord, dans les CIUSSS de l'île de Montréal, puis j'ai pas de raison de croire que ce soit très différent ailleurs, il y a 50% seulement des travailleurs de première ligne qui sont vaccinés. Donc ça, c'est extrêmement mauvais pour la résistance du système de santé à une éventuelle recrudescence du virus. Et deux, il y a plus de la moitié des Québécois qui font des syndromes qui apparaissent être COVID, qui ne vont pas se faire dépister. Mmh. Alors ça, ça empêche complètement les mesures de protection, les mesures de dépistage, les mesures d'intervention de la santé publique.
C'est ça.
De grâce, si vous faites ce qui s'apparente à un COVID, puis que vous ne voulez pas aller vous faire dépister, au moins restez à la maison, puis restez 14 jours en isolement. Mais ce n'est pas la meilleure façon de faire. Il faut être responsable. Aller se faire dépister, tu as le COVID, ben on va contacter tes proches, puis on va éviter qu'il y ait une propagation plus grande.
Mais chez les travailleurs de la santé aussi, c'est un peu incompréhensible, non? Vous êtes tous les deux chefs de votre département. Est-ce que vous êtes en mesure de dire à ceux qui travaillent avec vous, sous votre responsabilité, regarde, va te faire vacciner, parce que sinon, ça ne marchera pas, là?
Bien, on a...
Docteur Marquis, puis Docteur Simon, oui.
On a un pouvoir de persuasion, je veux dire, je peux, et ça, je le fais à longueur de journée, à chaque fois que je peux le placer, j'essaie de dissiper les inquiétudes, les doutes, je réponds aux questions, on fait du renforcement positif, mais comme chef de soins intensifs, un, je n'ai rien à dire sur tout ce qui est nursing, allothérapeute, préposé, je suis chef médical, tous mes médecins sont vaccinés. À partir de là, même si j'avais un médecin qui refusait, je n'ai pas le pouvoir de l'obliger à se faire vacciner. Là. Quand on parle de chef de soins intensifs, il faut comprendre que c'est un joli titre qui vient avec beaucoup de responsabilités et pas tant de pouvoir.
Merci, Dr Marquis. Je sais que vous devez retourner à vos patients. Alors, merci d'avoir pris le temps. Dr François Marquis est chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On va un petit peu abuser du Dr Mathieu Simon qui va rester avec nous encore quelques minutes. Merci beaucoup d'être là. On revient tout de suite après la pause, puis je demande à nos auditeurs si vous sentez que les gens ont baissé la garde autour de vous par rapport aux mesures sanitaires, bien sûr. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent également à isabelle@985fm.ca. Je vous lis, puis c'est ce que vous dites, hein, que finalement, on va sans s'en rendre compte même, on n'est pas de mauvaise foi, personne. Là. C'est moi, ça m'est même arrivé. Tu rentres quelque part sur l'auto, tu vas quelque part, tu fais quoi? Ah! Mon masque, voyons donc. On ne l'aurait pas oublié il y a un mois, ne serait-ce qu'il y a deux semaines. Puis là, on dirait que, je sais pas, il se passe quelque chose, c'est dans l'air. C'est un peu l'effet printanier, mais oui, on l'oublie. Alors, il faut se le redire ensemble. Il faut pas lâcher. Dites-le-moi après la pause, 514-790-9850, 1-866-790-9850. Je vous demande si vous sentez qu'autour de vous, les gens ont baissé la garde, font peut-être un peu moins attention, vivent un peu plus comme dans une certaine normalité. Et évidemment, bon, on blâme personne parce que oui, il y a une certaine fatigue pandémique qui s'installe. Puis il y a quand même un certain déconfinement, des assouplissements qui ont été permis par le gouvernement, notamment des zones rouges qui sont passées en zone orange. Puis c'est un peu la discussion qu'on a ce matin. Faut-il s'inquiéter du retour à la zone rouge avec cette troisième vague dont on dit qu'elle est inévitable, même si ça sert à rien de les compter. À un moment donné, on va les accumuler, les vagues. Et là, pendant ce temps-là, l'important, c'est de pas se noyer là-dedans et de garder le moral et la tête hors de l'eau. On a Martin qui est avec nous. Je pense que vous avez une question, Martin.
Oui, j'ai un commentaire aussi.
Oui, allez-y.
Dans le fond, c'est sur les experts ont perdu toute crédibilité.
Vous
depuis
trouvez?
Le début, c'était deux semaines à aplatir la courbe. Là, c'est un an et demi. Oh, il va y avoir 200 000 morts. C'est jamais arrivé ça. Il va y avoir, mi-mars, il va y avoir 2000 cas par jour. C'est jamais arrivé. Ça n'a plus d'allure. Puis l'autre affaire, c'est pourquoi qu'ils ouvrent au Texas, en Floride, tout plein de places, il n'y a aucun problème. Mais ici, oh, ça va être l'hécatombe encore. C'est de la peur toujours. C'est,
Ben,
c'est plus crédible.
Ouais.
Moi, je ne suis pas les directives, ça n'a plus d'allure.
Ouais.
Il faut vivre sa vie, là, c'est pas plus dangereux qu'une grippe. Prouvez-moi là que c'est plus dangereux. Le monde en soi,
sur le dernier point, je suis obligée de vous dire que sur le dernier point, ça a été, oui, c'est plus dangereux qu'une grippe. Je pense que 12 mois après, tout le monde a compris ça, par exemple, Martin. Ça, oui.
Madame.
Mais après, sur le fait que vous ne suiviez plus les mesures, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous faisiez que vous ne faites plus aujourd'hui, Martin, par exemple?
Depuis le début, moi, depuis le début, quand j'ai vu que les statistiques, ça avait aucun sens, ça tenait pas à route. Ben, j'ai pas suivi mesure, moi. Je veux dire, je mets le masque pour rentrer dans un magasin, ben, je veux pas me pogner avec le monde, mais c'est ça.
Mais vous lavez les mains, j'imagine? Vous vous lavez les mains régulièrement?
Ben, comme avant. Je veux dire, quand j'ai les mains sales, je me lave les mains. Mais de là à mettre du purée, le genre de poison qui sent le gaz à chaque fois que je rentre dans un magasin, oublie ça, là. Je me sècherai pas les mains pour ça, moi.
Ouais.
Puis, une autre affaire que je veux dire, c'est que je suis allé sur les statistiques de Québec, du gouvernement du Québec. Tu regardes le nombre de personnes, 70 ans à 79 ans, qui ont testé positif. Ça, c'est juste ceux qui ont testé positif. Ça regarde les décès. Ça, c'est le nombre de monde qui sont décédés. Puis il y en a qui étaient liés à ça. C'est pas nécessairement de ça. Puis Ouais. Même avec ces chiffres gonflés-là, c'est pas plus que 2 par 100 qui meurent de ça.
Ouais, mais regardez, on a le docteur Mathieu Simon, puis sincèrement, je pense qu'il le voit tous les jours, il est assez bien placé, mieux que vous et moi même pour juger de ça. Donc Mathieu Simon, comme pneumologue, chef aux soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, je pense. Rétablissons les choses ici, docteur Simon.
Je pense que votre auditeur exprime un point de vue qui est partagé par beaucoup dans la population.
Oui, effectivement.
Mm-hmm. Vous savez, il y a raison de dire que les experts, en apparence, ont sonné l'alarme. Mais en même temps, ce qui ne s'est pas produit, là, le scénario italien, par exemple, c'est pas produit parce que ces experts-là ont été écoutés, puis il y a des mesures qui ont été prises. Alors, c'est sûr que c'est un peu comme pourquoi tu mets un détecteur de fumée dans ta maison alors qu'il y a très, très peu de monde qui passe au feu dans une année quand vous regardez ça? Ben, c'est parce que tu passes pas au feu parce qu'il y a des normes de construction, il y a des détecteurs, puis le monde est prudent. Ben, c'est la même affaire. Si on avait absolument rien fait pour le Québec, on serait ramassé comme aux États-Unis ou au Brésil où vous voyez que la société a été paralysée par le COVID. Là, la France s'est déconfinée largement parce que l'opinion publique était tellement contre les mesures de confinement que le premier ministre a décidé de donner du lousse alors qu'il y avait des variants qui arrivaient et encore une grosse prévalence dans la population. Puis on se retrouve avec 25-30 000 cas par jour avec les hôpitaux de Paris qui envoient des patients intubés vers Brest en Bretagne pour finir leur traitement. C'est pas le genre de société dans laquelle on veut vivre, mais c'est vrai que quand on anticipe une catastrophe, on réussit à la prévenir. Moi, j'ai grandi pendant qu'on parlait de l'Holocauste nucléaire. On pensait tous les matins que les Russes allaient décider de nuquer les Américains puis qu'on se retrouverait entre les deux puis qu'on vivrait pas jusqu'à notre 30e anniversaire. Mmh. Parce qu'on avait cette préoccupation-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a du monde qui se sont mis au travail puis qui ont réussi à apaiser le jeu puis à réduire le nombre d'armes nucléaires qu'il y a sur la planète. Mais le danger n'est pas éradiqué à ce moment-ci. C'est la même chose avec le virus. On n'a pas eu l'hécatombe attendue, puis les experts ont eu l'air de s'être trompés uniquement parce qu'on a écouté les experts puis on a empêché que ça se produise. Puis pour les autres arguments sur la mortalité, c'est 3 fois plus mortel que l'influenza. Et si c'était dans mon pouvoir, j'aimerais inviter votre auditeur à venir faire une tournée avec moi pour voir combien c'est une réalité. Ça, c'est une autre chose qu'on a peut-être mal faite, c'est-à-dire qu'on n'a pas montré assez les cas, mais vous comprendrez que la dernière chose qu'une patiente qui est en train de mourir d'un COVID a besoin, c'est d'avoir une caméra ciblée sur lui.
Mais non, mais clairement, mais je pense qu'il y a eu tellement de témoignages quand même. De dire aujourd'hui que c'est comme une grippe, je trouve que c'est poussé un peu parce que ça fait fi de tous ces gens qui ont vécu le deuil de... On a eu plus de 10 000 morts quand même. C'est pas rien. Là. Je veux dire, la grippe tue pas autant, ne serait-ce que pour ça, puis...
J'entends votre auditeur et je présume de par le thème de sa voix que c'est une personne qui est relativement jeune. Puis probablement que lui, s'il attrape le COVID, ça sera pas pire qu'une grippe, pas beaucoup plus. Il y a peu de chance. Mais c'est qu'en ne respectant pas les mesures sanitaires ou les respectant partiellement, il risque de rencontrer des gens pour qui ça va être beaucoup plus qu'une grippe. Une maladie sévère dans le meilleur des cas, une mortalité dans certains cas. Et c'est à ce moment-là qu'on doit se demander qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier de mon petit régulier pour permettre à d'autres personnes qui font attention parce qu'ils ont des raisons de croire qu'ils vont faire une maladie sévère. Puis c'est pas grand-chose d'être obèse, d'être hypertendu, avoir un problème cardiaque, avoir plus de 60 ans. C'est toutes des choses qui peuvent vous amener à l'hôpital puis aux soins intensifs.
Je peux vous dire qu'en tout cas, il y a une grosse réaction par rapport aux commentaires de Martin parce que beaucoup de gens estiment que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure avec le docteur Marquis, c'est une responsabilité individuelle aussi parce qu'on a tous une responsabilité face à la collectivité aussi. Donc, il faut... Si on ne veut pas penser aux autres, c'est malheureux, mais en temps de COVID, on est comme un peu obligé quand même de se forcer à le faire, pour ceux qui sont peut-être un peu moins communautaires. Il y a Louise, en tout cas, qui me dit « Je fais toujours très attention et je vais continuer. » Peut-être que le monsieur qui vient d'appeler, quand il l'attrapera, il changera d'opinion. Il y a Stéphanie qui dit « Il ne faut pas lâcher. » Je comprends qu'on est fatigué, mais c'est un dernier effort à faire. Elle dit « J'ai l'impression que tout le monde a ses propres expressions, exceptions. » On a Dominique avec nous. Merci, Dominique, d'être là.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui. Moi, j'habite en Outaouais. OK? Je vois pas de relâchement des règles. Je vois dans les magasins, les gens portent le masque, les gens font attention. Je vois pas de personne se faire des accolades puis tout ça. Puis pour ce qui est de la troisième vague, le gouvernement nous dit depuis un an que c'est 95% des personnes âgées qui en meurent puis tout ça. Bon, là, ils ont vacciné, ou en tout cas, sont rendus aux 60 ans pour les rendez-vous. Moi, je vois aucune raison là qui nous ramènerait en zone rouge, à part qu'un gouvernement qui va avoir le contrôle total sur sa population. Là. Mm. Parce que là, le monde qui sont bien malades puis qui en meurent vont être vaccinés. Là. Ben, à partir de là, tout ce qui revient après ça, ça semble être un gouvernement qui veut avoir le contrôle.
Moi, je comprends. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Docteur Simon, je dois vous laisser aller. Un petit mot ici pour encourager tout le monde.
Écoutez, je pense que la victoire est à nos portes, puis que la victoire va nécessiter que tout le monde se sente concerné, c'est-à-dire qu'il respecte les mesures d'ici à ce que la vaccination soit généralisée et qu'on fasse preuve de volonté quand ce sera le temps de se faire vacciner à notre tour. Il y a un de vos auditeurs qui disait tantôt que les Américains déconfinent plus rapidement que nous, puis ils ne semblent pas avoir trop de problèmes. Ben, il faut comprendre qu'il y a deux éléments là-dedans. Il y a 25 % aujourd'hui de la population américaine qui a reçu au moins une dose de vaccin. Donc, immense, ça, par rapport à nous qui sommes à moitié et beaucoup moins que ça. Et il y a même 14 % qui ont reçu leurs deux doses. Donc, ça ouvre une porte beaucoup plus grande à l'ouverture. Puis, il faut que les gens comprennent. C'est difficile de mettre un prix sur la liberté parce que dans notre société, la liberté, c'est un acquis. Mais là, pour revenir à ce qu'on appelle la liberté, c'est-à-dire la possibilité de faire à peu près tout ce qu'on veut sans trop de préoccupation pour l'autre, il faut qu'on se vaccine. Puis, s'il y a un message à retenir de nos interventions, vous avez remarqué à moi aujourd'hui, c'est que là, la balle est dans le camp de la population. On veut revenir à la normale. Faisons un dernier effort. Puis, c'est malheureusement une aiguille dans le bras. Allez vous faire vacciner, puis on va revenir à une vie plus normale.
Voilà. Merci beaucoup, Dr. Mathieu Simon, pneumologue. Il est à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il est chef des soins intensifs. On s'arrête ici, très courte pause. Est-ce que vous sentez que les gens ont baissé la garde autour de vous, un peu comme Dominique ou Martin, nos auditeurs, là, précédemment? Il y a comme une écœurantite là, aussi là, qui se fait sentir. Il y a même un grand questionnement, même par rapport à la crédibilité, même de ceux qui nous passent les messages. Est-ce que c'est ça qui contribue à ce qu'on revoit ici et là, des petits signes d'essoufflement par rapport au respect des mesures? Vous me dites, en tout cas, si vous voyez qu'autour de vous, ça relâche solide. 514-790-9850. Oui, justement, je parle à une Isabelle aussi. Bonjour Isabelle, est-ce que vous avez remarqué qu'autour de vous, les gens sont peut-être moins précautionneux?
Bonjour Madame Maréchal, oui, tout à fait. Dans un premier temps, je me demande comment vous faites pour rester positive et fière d'être québécoise avec plein d'auditeurs qui appellent, qui disent un peu n'importe quoi, même si ça fait un an qu'on se prive, qu'on est contraint à différentes choses. J'ai 35 ans, je suis pas dans la clientèle cible, j'ai des amis que leurs chirurgies sont repoussées, j'ai eu des décès autour de moi qu'on n'a pas pu aller aux funérailles. Fait que si je regarde pas mon petit nombril à moi, là, que mon Dieu, le masque me dérange dans ma vie de tous les jours, ben on est contraint. Mais c'est pas grave, c'est pour le bien de tout le monde. Puis en fin de semaine, j'allais faire une course dans le Vieux-Terrebonne et je vous annonce officiellement, là, sur les grandes ondes là, du 98.5, il n'y a plus de COVID dans le Vieux-Terrebonne. Ça danse, ça chante, la police passe, ça boit de la bière sur le trottoir, ça se donne des becs. Il n'y a personne qui a des masques. On est resté 3 minutes, on est reparti. C'était ridiculement décourageant. Puis je suis vraiment pas fière des Québécois. Puis je suis pas fière d'en faire partie. Nous, ça fait un an qu'on porte le masque. Nos activités professionnelles ont diminué. On a envie, dans tous les sens, au niveau personnel, professionnel. Puis on a des auditeurs qui appellent puis qui disent « Ben là, le Purel, ça pue, on est tanné, on bronze pas égal avec un masque, moi je me pue ça un masque, c'est ridicule. » Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas faire une dépression. Je vous félicite pour votre beau travail.
Merci, vous êtes gentille, Isabelle. Mais je retiens ce que vous dites par rapport aux gens, effectivement. On en a vu beaucoup en fin de semaine. Moi, je me suis surprise aussi à voir des gens dans le parc en face, chez moi, à Verdun. Là. C'était des voisins puis qui prenaient un petit verre de vino. Il n'y avait plus de 2 mètres, il n'y avait plus de masque. Puis c'était pas la même bulle, clairement. Là, mais...
Et ce que je comprends pas, c'est que même si on avise la police passe en voiture, débarque même pas des autopatrouilles et interviennent pas. Et ils ont les outils pour donner des contraventions. Fait que ça nous tente même plus de dénoncer parce qu'à l'autre bout, il y a personne qui fait rien. Puis tout manque de cohérence. Je pense que c'est ça le mot-clé à retenir, c'est qu'il n'y a pas de cohérence. Quand il y avait le climat de peur du gouvernement début, on avait peur d'aller à l'épicerie, on lavait nos raisins un par un. Et là, ben, c'est un peu n'importe quoi. Tout le monde se fait gérant d'estrade, se fait ses propres règlements. Puis je pense que c'est l'auto-déconfinement là, que les gens se donnent qui est plus dangereux que n'importe quoi.
Merci beaucoup, Isabelle. Merci bien. C'est très juste tout ce que vous nous décrivez. Puis je le sens beaucoup. Il y a JF qui m'écrit. Il dit il habite à Grenville et la semaine dernière, dans un magasin d'alimentation, gros relâchement. Plusieurs personnes dans une même rangée, pas de 2 mètres. Ça avait disparu. Il dit, moi, j'ai reviré de bord. Pas question que je passe là. C'était comme ça partout. À l'épicerie, entre autres. Donc, il y a vraiment du relâchement. On a Joanie avec nous. Bonjour, Joanie.
Bonjour, Isabelle.
Comment ça se passe pour vous, autour de vous? Est-ce que vous êtes témoin, justement, d'une certaine garde qui est relâchée?
Oui, vraiment. Surtout au niveau là, des personnes âgées. Je comprends qu'ils sont plus vulnérables. Moi, j'ai un garçon qui est au primaire. J'ai 33 ans. Ça fait un an qu'on se prive d'activités, qu'on ne voit pas notre famille. On fait tout ce qu'il faut. On va à l'épicerie. Les personnes âgées, le masque en dessous du nez, ça respecte pas les allées, ça respecte pas le 2 mètres. On va au parc, la même chose, des rassemblements de personnes âgées encore. Mm. Puis là, le 2 mètres, là, il fait beau, là. Là, le 2 mètres, ça s'en va, pas de masque, ça se passe les cigarettes, ah ouais donc. Mm. J'en ai vraiment ras-le-pompon, là.
Mais on n'ose rien dire, hein, Joanie?
On n'ose rien dire, ouais. On lance des petits regards, moi, je me mets en plein milieu de l'allée, puis excusez-moi, vous n'êtes pas dans le bon sens, puis là, ça me regarde comme si j'étais là la frustrée.
Oui, effectivement. Yes. Merci beaucoup, Joanie. J'ai Louis qui me dit, moi, j'ai toujours respecté les règles jusqu'à maintenant, mais là, je commence à être fatiguée de tout ça. Alors, j'ai recommencé à avoir une couple d'amis, mais sans les enfants. Mais donc, ils ont recommencé à avoir des amis. Il y a beaucoup de gens là, qui m'écrivent ce que Louis m'écrit. Là, c'est-à-dire, on a recommencé à avoir du monde. Puis c'est drôle parce que souvent, vous l'avez peut-être entendu autour de vous, ce commentaire-là. Oui, j'ai vu une couple de mes amis, mais ils sont corrects, eux autres. C'est comme, c'est pas marqué sur ton front, asymptomatique COVID. Parce que c'est à ça qu'il faut penser. C'est pas que les gens qui pensent qu'ils l'ont pas, c'est êtes-vous potentiellement porteur? Et on le dit, hein, 40 % des gens qui l'attrapent l'ont en fait eu d'une personne qui était asymptomatique. C'est quand même pas rien. Michel est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Regardez, moi, en passant, je veux vous remercier pour votre émission. C'est une excellente émission d'information que
merci
j'apprécie beaucoup.
Merci beaucoup. Merci, Michel. Ben, c'est très gentil. Merci Michel.
C'est le réseau Cogeco qui fait une très bonne job. Maintenant, regardez. Moi, j'aurais beaucoup de choses à discuter avec vous, mais le simple fait qu'on ne prenne pas vraiment en considération nos gouvernements, j'entends ce que les citoyens peuvent apporter, puis qu'on nous, jusqu'à un certain point, qu'on nous infantilise un peu.
Qu'on
ne nous dit pas les vraies choses tout le temps.
Ouais. Puis, avez-vous relâché, vous, Michel? Avez-vous commencé à...
Absolument pas. Je peux vous dire que dans ma région, l'Outaouais, les gens sont très, très pro-masque et la distance sociale est respectée.
Pourtant, ça augmente. Hein? Vous avez vu l'augmentation des cas. Entre autres, l'Outaouais est une des régions qui inquiète beaucoup la santé publique. Merci beaucoup, Michel. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vous le disais en début d'émission, là, évidemment, bon, on dit que par rapport au Québec, là, comme tel, et d'ailleurs, tout de suite après la pause, on va parler à Gaston Dessert. Docteur Dessert est à l'Institut national de santé publique. Il va pouvoir nous rappeler ça. Mais les cas sont stables à l'échelle du Québec, mais il y a des régions qui viennent de passer il y a 2 semaines à l'orange qui, là, sont comme orange brûlé, là, pour faire l'analogie avec le tison dont nous parlait Docteur Simon, Docteur Marquis en début d'émission. Orange brûlé ou requin qui est en dessous de l'eau qui veille. Les requins en dessous de l'eau, les fameux requins du docteur Arruda. Et c'est ça qui inquiète.
Le variant, il est en dessous de l'eau, mais le variant attend juste les conditions pour se répliquer chez les gens, d'où notre prudence importante actuellement.
Alors, ça rôde. Il faut pas lâcher. On en parle tout de suite après avec le docteur Gaston Dessert. Docteur Gaston Dessert est avec nous, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Il est professeur en épidémiologie à l'Université Laval. Merci d'être là, docteur Dessert. Vous avez entendu les témoignages de nos auditeurs. Il y a beaucoup de scepticisme. Beaucoup de gens là ici aussi qui sont frustrés d'entendre des gens qui sont encore 12 mois plus tard pas convaincus que c'est une vraie maladie, ça, la COVID, puis que c'est très contagieux. Mais au-delà de ça, quand on regarde, par exemple, ne serait-ce que les chiffres qui viennent de l'INSPQ, là, que vous avez publié jeudi dernier, où là, c'est clair qu'il y a une troisième vague qui nous pend au nez. Et là, on parle de nouvelles infections qui pourraient monter jusqu'à 2000 cas par jour. Quand on voit ce qui se pointe en Outaouais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce que c'est ça qui est en train de se passer?
Bon, je pense que les prévisions dont on parle sont évidemment liées beaucoup à l'apparition des variants puis à la place de plus en plus grande qu'ils pourraient prendre. Parce que comme ils sont plus contagieux, ben évidemment, ces variants-là, même dans les circonstances actuelles, là, où est-ce que les gens, avant même de relâcher les mesures, ils étaient déjà en augmentation. Alors ça, évidemment, c'est ce qui est un peu affolant là, face à ces variants-là, c'est que leur croissance, elle est déjà notable, et si les gens relâchent encore plus leurs mesures de protection, ben évidemment, ça va avoir un effet, je dirais, amplificateur là sur cette croissance-là. Alors clairement, actuellement, j'allais dire les choses qui nous, enfin l'ampleur de cette troisième vague-là pourrait être très, très limitée si les gens vraiment adhèrent bien aux mesures de précaution. Mais c'est certain que ce que j'entendais des auditeurs qui appelaient, c'est que malheureusement, il y en a plusieurs qui, je dirais là, complètement oublient là, la façon dont on doit se comporter si on veut garder cette maladie-là en échec. Là.
Est-ce que les zones oranges, docteur Dessert, risquent de repasser au rouge?
Ben, c'est, évidemment, je pense que c'est pas du tout ce qui est souhaité, mais c'est, je pense qu'on a plusieurs exemples au Canada, à l'extérieur, dans d'autres pays, où la situation se dégrade à une vitesse tellement rapide que le reconfinement est mis en place, là. Donc, c'est certainement pas ce que les gens souhaitent au niveau gouvernemental, mais clairement, si la situation se détériore très, très fortement, ça peut être un des seuls outils dont on bénéficie. Il faut comprendre qu'actuellement, la vaccination va faire que l'impact de la troisième vague va être plus limité en termes d'hospitalisation et de décès parce que les personnes les plus à risque, on est en train de vraiment les vacciner là de façon, je dirais, assez rapide. Mais dans l'ensemble de la population, les gens sont pas vaccinés et c'est là actuellement où circule le plus le virus. Puis si ça s'amplifie, ben évidemment, je dirais, les gens qui sont plus jeunes ont moins de risques d'être hospitalisés, mais s'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont malades, ben ça va faire quand même plusieurs personnes qui vont rentrer à l'hôpital. Alors, c'est vraiment toutes ces choses-là là, qui doivent être considérées dans la situation actuelle.
Oui, tout à l'heure, il va y avoir une conférence de presse, d'ailleurs, du premier ministre François Legault avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Le directeur Arruda sera là également, sans nous mettre dans le secret des dieux. Vous vous attendez à quoi, docteur Dessert? Qu'est-ce qu'il risque d'annoncer, d'après vous?
J'ai aucune idée là, de ce qui va être annoncé. Alors, c'est pour ça que c'est pas une question du secret des dieux, là, mais moi-même, j'ai aucune idée là, de ce qui va être annoncé. Mais c'est certain que...
Dans vos meetings, là, est-ce que c'est tendu à l'Institut national de santé publique? Est-ce que vous sentez là, qu'il y a comme une nouvelle urgence? Là, de voir des zones oranges rebassées au rouge, docteur Dessert, ça serait la dernière affaire qu'on voudrait, là, parce que sur le moral des gens, ça serait probablement assez dommageable.
Ben, c'est certain que ce serait assez dommageable. Maintenant, c'est sûr que quand on regarde des situations comme celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où ça monte, là, mais t'es vraiment très rapidement, c'est sûr que là, j'allais dire, ce qu'on voit, là, c'est que quand une situation se dégrade, ça arrive souvent assez vite. Puis après ça, pour corriger, là, ça prend des semaines avant que le taux se mette à baisser et tout ça. Donc, c'est sûr que la marge de manœuvre avant de resserrer la vis là, pour éviter que les choses se dégradent trop, elle est relativement limitée. Alors ça, c'est certain qu'au niveau du gouvernement, du ministère de la Santé, les gens ont pris de l'expérience, puis ils voient bien là, que dès qu'on retarde un peu de mettre en place des mesures, c'est épouvantablement long.
Mais qu'est-ce qui a dû se passer, d'après vous? Qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous, Saguenay-Lac-Saint-Jean?
J'ai pas d'informations de première main là qui me permettent de vous donner des détails là, mais c'est sûr que bon, en fait, il y a au Saguenay-Lac-Saint-Jean différents endroits qui ont été touchés, des endroits donc c'est pas tout toutes, en fait, c'est pas tout, tous les cas sont pas concentrés à un seul endroit. Maintenant, c'est sûr que ce qu'on voit est quand même, je dirais, une montée là extrêmement rapide. Puis c'est sûr que je sais que les collègues de la région travaillent extrêmement fort pour réussir à faire le traçage des contacts, mettre les gens en isolement. Mais c'est clair que l'attitude globale de la population va être... il va falloir solliciter la population pour dire, écoutez, il faut absolument là, faire attention et ne pas,
faut pas oublier le gros bon sens, COVID. Faut garder nos mesures puis pas relâcher trop. Merci beaucoup, Dr. Gaston Dessert. On se retrouve après les nouvelles. Alors, merci.